Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
François Pinet.
Bonjour à toutes et à tous, que vous soyez sur la route des vacances, chez vous, au travail, nous sommes ravis de vous accompagner pour cette journée de sport qui se poursuit sur RMC. Journée riche puisque vous pourrez suivre ce soir, vous le savez, le trophée des champions, le match qui lance vraiment la saison en France. Ça se passe à 20h, c'est à Tel Aviv entre le Paris Saint-Germain et le FC Nantes. Et dans un instant, on retrouve nos envoyés spéciaux en Israël, Arthur Perrault et Timothée Mémon, pour les toutes dernières infos compo des deux équipes. Supporters du PSG de Nantes d'ailleurs, venez nous dire ce que vous pensez de cette rencontre au 32-16 sur le hashtag RMC Live sur Twitter ou encore sur l'appli RMC Direct Studio. Autre match à suivre aujourd'hui, un certain Marseille-Milan, ça rappelle forcément des souvenirs aux amoureux de foot et aux supporters de l'OM. Match amical, match de gala très attendu pour terminer la préparation des Marseillais, on en parlera dans cet Intégral Sport. Et puis vous pourrez suivre à partir de 18h la finale de l'Euro féminin entre l'Allemagne et l'Angleterre dans un stade de Wembley qui va faire le plein. Finale très indécise entre deux très très belles équipes. On vous présente cette finale et on suivra ce match en direct dans l'Intégral Sport. On viendra aussi sur le Grand Prix de Formule 1 que vous avez pu suivre il y a quelques instants en direct avec Benoît Boutron et Jean-Luc Roy. Victoire de Max Verstappen, journée noire pour Ferrari. On tire les enseignements de ce Grand Prix de Hongrie avec Jean-Luc Roy. Ça sera dans une heure à peu près. Et puis on reviendra sur la victoire française du jour, celle de Caroline Garcia qui gagne la finale du tournoi de Varsovie contre la Roumaine Anna Bogdan. Allez, c'est parti pour l'Intégral Sport.
Intégral Sport.
Et on va commencer par notre live, le Tour de France Femmes qui s'achève aujourd'hui, 8e et dernière étape entre Lure et la super planche des belles filles. On retrouve Valentin Jamin qui est sur place pour RMC. Salut Valentin.
Salut François, salut à toutes et à tous. Et on approche de la super planche des belles filles. Encore 14 kilomètres à parcourir pour les échappées. Parmi elles, la 9e au classement général, notamment Mavi Garcia, championne d'Espagne. Et ces échappées sont une quinzaine. Elles ont 1 minute et 20 secondes d'avance sur le groupe maillot jaune. Nous figure donc la leader du classement général, la néerlandaise Annemiek van Vleuten. Toutes les femmes classées dans les 10 premières sont ici. Personne n'a été lâché. Donc Annemiek van Vleuten est là avec son maillot jaune, tout comme sa dauphine Demi Vollering qui elle a le maillot à poids, qui est deuxième à 3 minutes et 14 secondes et qui a essayé d'attaquer Van Vleuten dans le ballon d'Alsace qui était un col de première catégorie dans la montée et dans la descente également, sans jamais réussir à décramponner Van Vleuten qui pourtant a eu quelques galères, notamment des soucis mécaniques. Elle a dû changer de vélo, elle a été prise dans une cassure. Bref, pour l'instant elle est toujours bien calée dans la roue de Demi Vollering. Annemiek van Vleuten, a noté que Juliette Labousse, quatrième au classement général, elle est à 50 secondes du podium virtuel, est toujours également dans ce groupe des favoris. Et dans 7 km maintenant, on sera au pied de cette super planche des belles filles où il y a beaucoup de monde pour soutenir le peloton féminin.
Très bien Valentin. Ben, du coup effectivement il y a peut-être une Française qui va terminer sur le podium, c'est un des enjeux de cette dernière étape.
On c'est est possible. D'accord,
c'est tout à fait possible. Elle peut faire son retard, on l'espère. On suivra ça avec toi bien sûr, la fin de cette 8e et dernière étape du Tour de France Femmes qui est pour l'instant une belle réussite. On reviendra également sur toi bien sûr pour faire le bilan de cette première pour le Tour de France Femmes. Merci Valentin. Direction Tel Aviv tout de suite à 17h10 sur RMC en Israël avec le trophée des champions. C'est ce soir 20h entre le champion de France, donc le Paris Saint-Germain, et le FC Nantes, le vainqueur de la Coupe de France. Ce sera à suivre en direct et en intégralité sur RMC. Arthur Perrault et Timothée Mémon sont sur place pour RMC. Salut tous les deux.
Salut François, salut à tous.
Salut François, salut à tous.
Alors, avant de parler de l'ambiance un petit peu à Tel Aviv, avant de parler peut-être de la chaleur qui va peut-être jouer son rôle, donnez-nous d'abord des infos sur la composition d'équipe du Paris Saint-Germain. On va commencer par les champions de France et sur ce que pourrait être la première compo officielle du PSG version Galtier.
Et Christophe Galtier qui devrait être dans la continuité de ce qu'il a travaillé du côté du Japon pour la tournée estivale du Paris Saint-Germain et en particulier du dernier match face au Gamba Osaka avec cette fameuse défense à 3 qu'il tient à mettre en place depuis son arrivée du côté du club de la capitale. Un 3-4-1-2 avec dans les cages le gardien numéro 1 nommé par Christophe Galtier, Gianluigi Donnarumma, la défense Ramos, Marquinhos, Kimpembe au milieu de terrain, Hakimi à droite, la paire Verratti-Vitinha, la recrue parisienne qui a d'ailleurs été très performante lors du dernier match amical dans l'archipel, Nuno Mendes à gauche, juste devant Lionel Messi en électron libre, et en attaque, la paire Neymar-Sarabia, Pablo Sarabia de retour de prêt du Sporting, préféré à Arnaud Calimuendo qui avait lui aussi été performant du côté du Japon.
Donc ça, c'est la composition qui n'est pas encore totalement officielle, hein, mais qui devrait être alignée par Christophe Galtier. Très intéressant, effectivement, de voir que cette défense à 3, c'est vraiment le chantier de Christophe Galtier. C'est son choix. On va écouter d'ailleurs Marquinhos qui en a parlé. C'était hier en conférence de presse. Il est revenu sur cette défense à 3 et sur les habitudes à prendre pour les joueurs, bien évidemment.
On a travaillé, on sait qu'on a fait quelques erreurs. Et bon, c'est des petits détails à corriger. Je pense que c'est normal. Et comme j'ai dit, c'est un nouveau schéma. Nous, on a besoin un petit peu de temps d'adaptation. C'est important de les régler, ces petites erreurs. Et on l'a fait. Et le coach nous a montré en vidéo. Nous, on a travaillé sur le terrain, à l'entraînement. Voilà, j'espère que tout sera bien réglé pour ce match de demain.
Vous qui avez suivi ça de près, cette préparation, même si ce ne sont que des matchs de préparation, c'est vraiment le choix de Christophe Galtier. Elle a été installée, cette défense à 3. Est-ce que ça fonctionne bien, messieurs ?
Alors, elle a montré quand même quelques fragilités du côté du Japon, notamment lors du premier match face au Kawasaki Frontal, avec des joueurs qui prenaient beaucoup cette défense à revers dans le dos. Et voilà, on l'a vu souvent en difficulté. Très vite, Christophe Galtier a été interrogé sur le sujet en conférence de presse. Et à ce moment-là, il demandait déjà du temps pour trouver cet équilibre entre aussi l'attaque et la défense, en faisant passer un message assez habilement justement à son trio offensif, de façon à ce qu'il fasse l'effort de faire un minimum de repli. Et il en a également reparlé hier en conférence de presse, en disant que voilà, ça a été travaillé, qu'il n'y a pas de souci à se faire, que oui, il faut du temps, mais que là, sa défense sera vraiment studieuse pour ce premier grand rendez-vous aussi pour Christophe Galtier à la tête du Paris Saint-Germain.
On suivra ça avec donc Ramos, Marquinhos, Kimpembe, vous l'avez dit, a priori titulaire, et Hakimi, Nuno Mendes sur les côtés, qui vont avoir un rôle très très important dans cette défense à 3. Parlons un peu justement de Christophe Galtier, attendu bien sûr, très attendu pour ce premier match. C'est certes le trophée des champions, c'est pas le plus gros trophée, pas le trophée le plus important pour le Paris Saint-Germain, mais il l'a répété, hein, vous l'avez entendu en conférence de presse, c'est un match qu'il faut absolument gagner pour bien lancer cette nouvelle page, puisqu'on parle de nouvelle page au Paris Saint-Germain.
Exactement, et on lui a demandé d'ailleurs quel était le plus important. Est-ce qu'il fallait d'abord séduire et après gagner? Lui, il a dit non, ce qui m'importe vraiment, c'est de gagner, séduire. Voilà, il y a encore un peu de temps devant lui. Après, oui, c'est un premier rendez-vous très important. Pourquoi? Parce que le Paris Saint-Germain a aussi laissé passer ce titre la saison dernière en s'inclinant 1-0 face à Lille. C'est un premier gros rendez-vous pour aussi prouver déjà que la méthode Galtier a été totalement adoptée par ce groupe. C'est vrai qu'avec Timothée, hier, lors de la dernière séance d'entraînement, on a vu beaucoup de bonne humeur, beaucoup de joie, des exercices, des jeux de chat, de baladis à la main, mis en place par le staff de Christophe Galtier. Tout ça rejaillit, et c'est vrai qu'on le sent très bien, mais maintenant, il va falloir répondre sur le terrain. Ce groupe a travaillé dans des conditions très compliquées du côté de Tokyo, avec 30 degrés et en moyenne 70% d'humidité. Là, il fera chaud, mais ce n'est pas la même chaleur. Voilà. Les conditions de jeu seront vraiment idéales du côté du Bloomfield Stadium de Tel Aviv.
Et puis Christophe Galtier, François, je me permets d'intervenir parce que je le connais bien pour l'avoir fréquenté à Saint-Etienne pendant plus de 9 ans. Et je l'ai senti excité et joyeux d'être là. Il n'y a pas vraisemblablement d'appréhension de la part de Christophe Galtier. La pression, il l'a peut-être eue, il l'aura plus tard dans la saison, mais il sait que sur ce match-là, bah voilà, c'est son premier match officiel, c'est la première fois qu'il va officiellement avoir les cuissons du Paris Saint-Germain sur son blason pour coacher. Et il y a du plaisir, et puis un petit peu de second degré. J'ai bien aimé dans sa conférence de presse, parce qu'il est toujours un habile communicant, quand on lui a demandé si avec la tournée au Japon, se déplacer à Tel Aviv, si la vie du groupe avait changé, il a dit c'est surtout ma vie qui a changé. Il a conscience qu'il a changé de dimension, et le fait d'avoir un petit peu de recul là-dessus prouve d'en faire un trait d'humour prouve que voilà, qu'il est pour l'instant bien dans ses baskets et bien dans son rôle. Encore une fois, ça passera nécessairement par des résultats, à commencer par ce soir, parce que s'il s'impose, tout le monde dira que c'est normal. S'il s'incline, en revanche, tout le monde commencera à se poser des questions, et les sceptiques se feront entendre un peu plus vivement.
17h15 sur RMC. On est en train de parler bien sûr du trophée des champions, donc le match entre le PSG et Nantes, c'est à suivre ce soir à 20h avec Arthur Perrault et Timothée Mémon, qui sont sur place à Tel Aviv. Justement, tu parlais, Timothée, de Christophe Galtier, de cette conférence de presse. On va l'écouter sur un cas particulier, sur celui de Neymar, parce que c'est vrai qu'il en a beaucoup parlé lorsqu'il est arrivé, lorsqu'il a été intronisé, Christophe Galtier, en disant que c'est un joueur sur lequel il voulait compter. Ben, il est revenu justement sur Neymar hier en conférence de presse. Écoutez.
concernant Neymar, mais j'ai un joueur joyeux, heureux, très professionnel. Il est arrivé préparé, fit. Jusqu'à présent, il n'a manqué aucune séance. Il travaille. Il est à la fois dans le partage et dans l'écoute par rapport aux attentes que l'on peut avoir sur lui. On sait tous que c'est un grand joueur de classe mondiale. Et comme je l'ai dit, il est toujours important d'avoir des joueurs de classe mondiale pour avoir des objectifs très hauts.
Un nouveau Neymar peut-être avec Christophe Galtier, en tout cas c'est ce qui semble se dire en conférence de presse. Maintenant ça reste à être confirmé sur le terrain, mais c'est vrai que ce match va être intéressant aussi à suivre, celui de Neymar en l'absence de Mbappé. Il y a Messi, mais il y a aussi Neymar dont on disait que la porte était ouverte. Finalement lui il a très envie de rester, il doit le prouver sur le terrain.
Il l'a clamé d'ailleurs au effort du côté du Japon en disant voilà, moi je suis très heureux ici, j'ai envie vraiment de rester au Paris Saint-Germain. Son entourage fait passer les mêmes messages, et c'est vrai que ce constat partagé par Christophe Galtier hier en conférence de presse, c'est vrai que on nous en parle beaucoup aussi en interne. Voilà, on est sur un nouveau Neymar qui est arrivé avec de bonnes résolutions, qui s'est montré totalement impliqué lors de la tournée estivale dans les opérations promotionnelles et surtout sur le terrain, et notamment dans un secteur qu'on lui reprochait beaucoup la saison passée, le repli défensif. Et c'est vrai que certes le PSG s'est montré plusieurs fois en difficulté dans ce secteur défensif lors des trois derniers matchs amicaux, mais Neymar était là, Neymar a fait les efforts et il les fait aussi au quotidien dans les séances d'entraînement. Reste à savoir si cela va durer longtemps, tu en parlais il y a quelques instants François, sur l'ensemble de la saison.
Bon, en tout cas, c'est plutôt positif, effectivement, tout ce qui ressort du groupe parisien pour l'instant. Mais encore une fois, le test, ça sera ce soir sur le terrain contre Nantes, notamment. Une petite info mercato qu'on peut donner aussi, messieurs, concernant le Paris Saint-Germain et concernant Idrissa Gueye, peut-être.
Oui, le Paris Saint-Germain qui, on le sait, travaille beaucoup sur les arrivées. Il y a eu les recrutements d'Hugo Ekitike et de Nordi Mukiele qu'on verra d'ailleurs ce soir à Tel Aviv. Mais Paris doit aussi absolument dégraisser pour rentrer dans les clous du fair play financier. Et depuis le milieu de semaine, Everton est en discussion régulière avec le Paris Saint-Germain pour tenter de faire revenir Idrissa Gueye. On rappelle que le milieu de terrain sénégalais reste aujourd'hui lié au club de la capitale jusqu'en juin 2023. Lui, il aurait d'ailleurs envie de, voilà, d'honorer cette ultime année de contrat. Mais attention, parce que ces dernières heures, les négociations se sont intensifiées entre les deux parties. Elles vont se poursuivre pour tenter d'aboutir assez rapidement à un accord. Ce qu'on peut dire, c'est que, voilà, on est au tout début des discussions. On ne sait pas vraiment s'il s'agit d'un prêt qui est un peu le tube du moment du côté du Paris Saint-Germain ou d'un transfert sec. Mais voilà, ça avance et ça avance très bien.
D'accord, bah ça c'est intéressant effectivement de savoir ce qui va se passer dans les prochaines heures pour le mercato parisien, sachant que certains que le PSG aimerait, dont le PSG aimerait se séparer, ne sont pas du voyage à Tel Aviv, hein, on le rappelle, mais il y en a certains qui sont dans une sorte de loft et qui ne participent pas à ce match contre Nantes. On va, avant de parler de Nantes justement, prendre Philippe qui a fait le 32-16, supporter du Paris Saint-Germain, pour parler de tout ça avec lui. Bonsoir Philippe.
Bonsoir messieurs.
Merci beaucoup d'être avec nous. Qu'est-ce que tu attends toi de ce match de ce soir contre Nantes, le trophée des champions? La victoire ou un peu de style aussi avec Galtier à la tête de ton club?
Bah, je dirais plutôt la victoire, parce que bon, le style, on est en tout début de saison, on est en plein rodage, en plein réglage, donc il faut être un petit peu indulgent concernant le style. Après, c'est vrai que c'est le PSG, on est exigeant tout de suite, parce que bon, quand on voit l'effectif du PSG, on veut tout de suite avoir du beau jeu et tout ça. Mais bon, moi j'ai regardé un peu les matchs de préparation au Japon. Bon, il y a eu un peu de lacunes défensives, certes, mais bon, ça reste quand même une équipe agréable à voir jouer avec le nouveau dispositif. C'est moi, ça me plaît en fait. Le ballon circule bien et puis j'ai vu des joueurs appliqués aussi. Bon, après c'est le début de saison, donc il faut voir sur le long terme. Mais en tout cas ce soir, pour bien lancer la saison, et puis surtout je pense que c'est une victoire qui serait très très importante, plus au-delà de la symbolique, pour Galtier. Je pense que ça lui permettrait de prendre encore un peu plus de confiance, et parce que si on démarre avec une défaite, ben il va être sous le feu des critiques. Donc ça serait bien pour le PSG pour Galtier que le PSG gagne ce match en fait.
Qu'est-ce que tu penses toi de tout ce qu'on entend autour de ce début de saison pour le Paris Saint-Germain, où les uns et les autres disent qu'ils sont heureux d'être là, Messi est en pleine forme, Neymar est revenu plutôt de vacances pour travailler et il a envie de rester au PSG, etc. On l'a entendu souvent ça au Paris Saint-Germain avant que tout s'écroule aux alentours du mois de mars. Qu'est-ce que tu en penses toi? T'as envie d'y croire cette année? Tu penses que ça va changer?
Bah, déjà, Messi il peut difficilement faire pire que ce qu'il a fait l'année dernière. Ouais. Neymar, il sait que, je pense que si cette année il se loupe, je pense que c'est cuit pour lui, non seulement au PSG, mais bon, c'est un joueur qui arrive tout doucement dans la trentaine et je pense que sa cote elle va baisser, mais je pense que cette année il y a pas mal de joueurs qui devront être au banchard. Après Galtier, c'est peut-être pas un entraîneur prestigieux, mais Galtier c'est un homme à poigne, un homme de caractère, et je pense qu'ils le savent, ça, les joueurs, que si jamais ils font pas les efforts sur le terrain, ils seront mis à l'amende par Galtier, parce que Galtier, c'est quand même quelqu'un qui a du caractère, qui est assez arrêté sur ce qu'il attend de ses joueurs. Donc je pense pas qu'il fera de cadeau à Neymar ou à Messi, tous joueurs de classe mondiaux qu'ils sont, quoi. Je pense que ils ont plutôt intérêt justement à montrer ce qu'ils savent faire et puis à mouiller le maillot, parce que bon, Neymar, peut-être pas Messi, mais plus Neymar, quoi. Parce que c'est vrai que Neymar, depuis qu'il est au PSG, ça reste en demi-teinte, quoi. Donc, et je pense qu'ils connaissent Neymar maintenant, il y a plusieurs années qu'ils jouent en France. Je pense qu'il sait qui c'est Galtier, et donc je pense que Neymar, il n'a pas intérêt à se rater s'il veut faire la saison, quoi.
Alors, ça va être intéressant, effectivement, de suivre notamment ce premier match de Neymar avec le Paris Saint-Germain. Merci beaucoup, Philippe, d'être passé.
Merci
sur RMC. Très bonne soirée, et donc bon match, bon trophée des champions à toi, PSG, donc face à Nantes à partir de 20h. Arthur Perrault, Timothée Mémon, vous êtes à Tel Aviv. On va parler un petit peu de Nantes quand même, les détenteurs du titre de la Coupe de France. Quasiment la même équipe d'ailleurs, hein, de celle qui a réussi une très très belle saison l'an dernier. Donnez-nous un peu les infos compo justement de cette équipe nantaise que l'on va voir ce soir.
Quasiment la même équipe, François, oui, mais avec un élément en moins, c'est Randal Kolo Muani, et pas n'importe quel élément, donc, puisque c'est vraiment le joueur qui a porté l'attaque nantaise la saison dernière aux côtés de Ludovic Blas. Pour ce qui est de la composition, ce sera Alban Lafont avec une défense à 3, Castelletto, Girotto, Palois sur les côtés, Marcus Coco et Fabio. Au milieu de terrain, on devrait retrouver Pedro Chirivella et Moussa Sissoko, et puis devant, Ludovic Blas en soutien d'Evan Guessant et de Moses Simon, même si encore une fois il y a une petite incertitude sur la possibilité de voir Mohamed Mostafa être titularisé. On l'a dit, on a parlé tout à l'heure des difficultés de cette défense à 3 du Paris Saint-Germain, de ce qu'on avait noté lors des matchs amicaux, notamment sur les problématiques face aux courses croisées des attaquants japonais. Certes, le profil de Moses Simon et celui de Mohamed Mostafa semble peut-être plus intéressant dans ce registre que celui d'Evan Guessant, mais Evan Guessant pourrait tout à fait jouer une partie du match et permettre à Mohamed Mostafa de rentrer un petit peu plus frais. En tout cas, on imagine que Antoine Camboire a vu la même chose que nous sur les matchs de préparation. Donc il va falloir surveiller ça. Le dos de cette défense à 3 parisienne, c'est pour le moment le point faible, semble-t-il.
Et puis il y a Moussa Sissoko, ça c'est une vraie curiosité de retrouver Moussa Sissoko en France, alors en l'occurrence en Israël, mais dans un club français, 9 ans après son départ de Toulouse. C'est un cadre là que Nantes a recruté, quelqu'un d'important dans le vestiaire et certainement sur le terrain. Je pense qu'Antoine Camboire doit être tout à fait satisfait de cette arrivée.
Oui, d'autant que c'est le genre de joueur qu'Antoine Camboire aime. Il aime les soldats, et Moussa Sissoko en est un parmi d'autres, mais en est un réellement. Donc il va pouvoir s'appuyer là-dessus. Et ça va être intéressant, là aussi, et je mets ça en perspective avec cette équipe du Paris Saint-Germain, de voir le duel au milieu de terrain. Chirivella n'est pas nécessairement un gros gabarit, mais Moussa Sissoko est un joueur athlétique, costaud, et pour le moment, ce qui lève quand même quelques interrogations sur ce milieu Vitinha-Verratti, c'est la petitesse de ce milieu et le fait que voilà, ce sont deux petits gabarits, et comme milieu de terrain, et ben dans le duel physique, ils vont devoir trouver du répondant. Alors ils ont des capacités,
les
évidemment, l'aisance technique, balle au pied pour ressortir le ballon, mais dans les airs, on peut imaginer que Moussa Sissoko puisse un petit peu dominer cette rencontre. En tout cas, ce sera une des curiosités. Et puis évidemment, Antoine Camboire lui aussi va s'en servir de rampe de lancement de Moussa Sissoko pour aller chercher, si Ludovic Blas décide d'être un peu plus proche de la surface de réparation parisienne, et bien pour aller chercher Ludovic Blas dans la profondeur et se muer ponctuellement en numéro 10, même si évidemment ce sera un vrai relayeur dans le dispositif d'Antoine Camboire.
Arthur, Timothée, merci beaucoup. Un petit mot peut-être de l'ambiance. Vous l'avez dit, hein, il fait chaud à Tel Aviv, il fait beau, il va y avoir du monde.
Il fait beau et chaud, on aura à peu près une trentaine de degrés au coup d'envoi, avec une certaine humidité, mais bien moindre par celle que les Parisiens ont connue au Japon. Pour ce qui est de l'ambiance, on est dans un hôtel qui est juste en face du très beau et très récent, en tout cas refait, Bloomfield Stadium. Et on entend dans la rue déjà là actuellement des supporters qui se rendent au stade en chantant. Non, il y aura du monde. Le stade sera plein. Très difficile de trouver des places là dans les dernières heures, même impossible très clairement, pour la bonne et simple raison que pour les amateurs de football, il est quand même plus que rare de voir Léo Messi venir en Israël, parce que.
Et d'ailleurs, ouais, pour ne rien te cacher, François, on a été se balader avec Timothée en ça, début ça, d'après-midi ça, en ville.
J'imagine bien que vous êtes
voilà. Et en revenant ici, juste à côté du stade, on a croisé plusieurs personnes avec des maillots argentins et brésiliens floqués de Neymar et Messi. Un peu comme au Japon, voilà, il y a deux joueurs qui font déjà l'unanimité ici en Israël.
Ouais, il y a plus de maillots Messi et Neymar que de maillots Sébastien Corchia, même si j'aurais pu citer. C'est bien normal. Merci beaucoup en tout cas Arthur, merci Timothée, merci beaucoup. Et donc ce soir 20h, coup d'envoi de ce Paris Saint-Germain-Nantes. On aura l'occasion de revenir avec vous pour les compositions officielles sur RMC bien évidemment, et donc de suivre ce match en direct et en intégralité. Le Tour de France femme, un peu plus de 5 km de l'arrivée, ça bouge Valentin Jamin.
Ça a même complètement explosé. Oubliez l'échappée, c'est Annemiek van Vleuten, la maillot jaune qui est en tête. Elle a attaqué sa dauphine Demi Vollering dans les toutes premières pentes de la super planche des belles filles, sans faire un écart forcément conséquent. Demi Vollering qui essaye de limiter la casse, mais Annemiek van Vleuten là qui va passer en danseuse sous la banderole des 5 km et qui a quoi, 30 mètres peut-être d'avance sur sa dauphine. Pour l'instant Annemiek van Vleuten s'envole peut-être vers un second succès d'étape consécutive, s'envole probablement vers la victoire sur ce Tour de France, blessée aussi peut-être d'avoir été lâchée alors qu'elle avait eu un problème mécanique qu'on ne l'avait pas attendu. Bref, Annemiek van Vleuten, la reine du cyclisme mondial, et la reine également pour l'instant sur ses pentes de la super planche des belles filles, un peu moins de 5 km avant l'arrivée.
Et on va suivre cette arrivée avec toi, merci beaucoup Valentin. Dans un instant on vous présente également Marseille-Milan, match de gala pour terminer la préparation de l'OM. 60 000 personnes attendues au stade Vélodrome, supporters de l'OM, rejoignez-nous tout de suite, le 32-16, le hashtag RMC Live sur Twitter, l'appli RMC Direct Studio. À tout de suite sur RMC dans l'Intégral Sport.
RMC Intégral Sport,
François Pinet.
Retour dans l'Intégral Sport sur RMC, ravi de vous retrouver. Il est 17h33, on vous accompagne toute la soirée sur RMC avec à 20h le Trophée des Champions, le match à suivre en direct en intégralité entre le Paris Saint-Germain et Nantes. On vient d'en parler, on y retournera bien évidemment à Tel Aviv où a lieu cette rencontre. Ne manquez pas à 18h notre invitée Caroline Garcia qui a remporté le tournoi de Varsovie il y a quelques minutes. Caroline Garcia qui a battu Anna Bogdan, la Roumaine, 6-4, 6-1, sera en direct avec nous. Le live, c'est le Tour de France femme, la 8e et la dernière étape. Où on en est, Valentin Jamin? Valentin Jamin qui suit ce Tour de France femme. Ah, on retrouvera Valentin dans un instant. Je peux vous dire qu'on est à un peu plus de 3 km de l'arrivée et que c'est la maillot jaune Van Vleuten qui risque de s'imposer.
Est-ce que le son est bon?
On a retrouvé Valentin. Oui, le son est parfait, Valentin. On t'écoute.
Oui, je suis de retour effectivement. On est maintenant à 3 km et 300 mètres de l'arrivée. Annemiek van Vleuten a creusé l'écart. La maillot jaune qui a gagné l'étape hier, 39 ans, néerlandaise, à 25 secondes d'avance, presque 30 maintenant sur sa dauphine au classement général. Demi Vollering qui elle est maillot à poids et qui essaie de s'accrocher mais qui ne peut pas face à la puissance d'Annemiek van Vleuten. Et puis à peine 10 secondes derrière Demi Vollering, il y a un groupe avec Katarzyna Niewiadoma, la polonaise, 3e au classement général, et Julie Labousse, l'autre tricolore, 4e du classement général, est toujours là, tout comme Cécilie Utrup, Ludwig, 5e du général. Bref, pour l'instant, les 3e, 4e et 5e au classement sont groupés, mais dans un groupe qui est maintenant à 40 secondes de la tête de course, emmené par Annemiek van Vleuten, qui elle est 20 secondes devant Demi Vollering, sa dauphine. Elle s'envole peut-être vers une victoire de prestige ici à la super planche belle fille, alors que c'est dur pour la 5e du classement général, Cécilie Utrup, Ludwig, j'ai envie de dire entre guillemets. Bonne nouvelle pour Juliette Labousse, qui pour l'instant conforterait sa place dans le top 4 de ce Tour de France. Elle est à 50 secondes d'un éventuel podium. Ce serait magnifique pour la Française de 23 ans. Pourquoi pas de terminer à domicile sur le podium du Tour. Mais c'est très très dur. On rappelle, François, 7 km de montée à 8,7% de moyenne et des murs à 24% de pente. C'est vraiment très très compliqué.
Et on va suivre ça bien sûr avec toi. Merci beaucoup Valentin. Vous ne raterez rien de cette arrivée de la 8e et dernière étape de ce Tour de France femme à 18h. Donc dans 25 minutes maintenant. Coup d'envoi de Marseille-Milan. Ah, ça rappelle des souvenirs, ça forcément. À Daniel d'ailleurs qui est en régie, ça lui rappelle forcément des souvenirs. Dernier match de préparation pour l'OM avant la reprise du championnat. La semaine semaine prochaine. Hamza Rahmani est avec nous. Salut Hamza.
Bonjour à toutes et à tous.
Pour nos amis de BFM Marseille, tu vas commenter cette rencontre. T'avais quel âge toi en mai 93?
J'étais pas né.
T'étais pas né.
J'étais pas né.
Tu n'as jamais vu ce match?
Je l'ai vu, mais j'étais pas né.
Tu l'as revu depuis. Non, forcément, ça rappelle tous ces matchs-là, même s'il y a eu depuis d'autres Marseille-Milan en Ligue des Champions, notamment il y a 13 ans. Est-ce que tu as les compos de ce match? Parce que c'est quand même un beau match pour terminer la préparation, un match de gala entre deux belles équipes.
Tout à fait. Du côté de l'Olympique de Marseille, Ruben Blanco dans le but qui remplace Paulo Lopez, blessé. Chancel Mbemba, Léo Balerdi, Samuel Gigot en défense. Rongier Gendouzi au milieu de terrain. Jonathan Clauss, piston droit. Kolasinac, piston gauche. Et le trio offensif, Gerson Payet et Luis Suarez, plutôt qu'Arkadiusz Milik.
Intéressant pour l'Olympique de Marseille. Des infos compo pour Milan aussi?
Oui, effectivement, avec les Français titulaires. Mike Maignan dans le but. Théo Hernandez, né à Marseille, qui fait son retour, sera sur le côté gauche. Tomori Kalulu dans l'axe. Calabria sur le côté droit. Tonali Benacer au milieu de terrain. Et puis il a aussi un quatuor offensif assez intéressant. Brahim Dias, Messias, Anterevic et Olivier Giroud, évidemment, à la pointe de l'attaque.
Important pour Marseille ce match, parce que c'est vrai que le reste de la préparation n'a pas été une franche réussite, en tout cas pour l'instant, en termes de résultats. Donc il doit encore convaincre Igor Tudor.
Ouais, c'est ça. Il y a eu une victoire face à un club de National 2. C'était le premier match face à Marignane Gigna, 4-1. Deux défaites face à Norwich et Middlesbrough. Un match nul face au Betis il y a quelques jours. Alors effectivement, au niveau des résultats, c'est pas forcément le plus évident pour l'Olympique de Marseille. Pourtant, on commence à voir petit à petit une amélioration dans le style, dans ce que tente de mettre en place le nouvel entraîneur Igor Tudor, ce qui change complètement, drastiquement, même avec le style Jorge Sampaoli, puisque Igor Tudor est plutôt un entraîneur qui est à la recherche de verticalité avec un bloc plus bas, moins de possession. Et forcément, pour un groupe qui a vécu une saison et demie avec Jorge Sampaoli, ça dénote complètement. Il y a un phénomène d'apprentissage, l'adaptation. Combien de temps mettront les joueurs à s'adapter au nouveau style Tudor, à ce que demande Igor Tudor? C'est l'une des interrogations de ce début de saison.
Tu peux nous dire d'ailleurs combien il y a de recrues là, nous aligner ce soir là?
Alors dans l'ordre de départ, Ruben Blanco, Mbemba, Gigot, ça fait 3, Jonathan Clauss, ça fait 4, Luis Suarez, ça fait 5.
5 recrues. Donc effectivement, vous pouvez vous regarder et suivre cette rencontre, parce que ça va être intéressant. Si vous n'avez pas encore vu, comme Hamza, les matchs de préparation, il y a quand même un OM new look.
Et on peut aussi imaginer que le latéral gauche, que le piston gauche Kolasinac ne sera pas titulaire cette saison. Nuno Tavares, qui est arrivé il y a quelques jours en provenance d'Arsenal, est sur le banc. On pourrait le voir entrer en jeu aujourd'hui, mais on peut aussi imaginer que le Portugais sera le joueur titulaire sur le côté gauche cette saison.
Kolasinac, parce que c'est vrai que les débuts de Kolasinac étaient compliqués à l'Olympique de Marseille. Bon, en tout cas, on va suivre cette rencontre avec toi, Hamza. Merci beaucoup. Marseille-Milan, 18h, donc coup d'envoi. Match de gala, d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais au stade Vélodrome, il va y avoir un monde fou hein, pour ce match. Hein.
62 000 personnes hier, quasiment 62 000 billets avaient été vendus.
Incroyable.
Et c'est un certain Basile Boli qui va donner le coup d'envoi fictif de la rencontre.
Tu ne te souviens pas de ce but?
On l'a tous vu, on l'a tous vu en mémoire. Et Paolo Maldini, le directeur sportif de l'AC Milan, est aussi présent du côté du Vélodrome.
Ça lui rappelle de moins bons souvenirs, mais c'est vrai que ce match va rappeler des souvenirs aux plus anciens. Et pour les plus jeunes, ben, n'hésitez pas, comme Hamza, hein, c'est facilement retrouvable maintenant, ce match Marseille-Milan, qui n'était pas un grand match de foot, mais qui était évidemment, qui est resté dans l'histoire pour le résultat, puisque l'Olympique de Marseille a remporté la Ligue des Champions. Merci beaucoup Hamza, bon match.
Merci
à toi. Marseille-Milan, 18h sur RMC, on vous donnera bien sûr le résultat en direct sur RMC. On vient tout de suite au Tour de France Femmes, parce qu'il reste moins de 2 km à parcourir pour les femmes de ce Tour de France, 8e et dernière étape. Valentin Jamin. On retrouve Valentin.
Pas du tout le peloton, la course emmenée par Annemiek van Vleuten. Maillot jaune qui est pour l'instant en tête sur la route de la super planche des belles filles. Elle est à 1,4 km de l'arrivée, 35 secondes d'avance sur sa dauphine Demi Vollering, qui perd petit à petit du temps. Et puis à 1 minute 35 maintenant de la tête de course, on trouve un groupe avec Nieva Doma, la troisième du général, Juliette Labousse, la quatrième du général, la cinquième, Cécilie Utrup-Ludwig n'est plus là, mais la sixième et la septième, Persico et Longo Borghini, elles sont bien là. Voilà, c'est un groupe qui essaie de s'organiser pour essayer de monter le plus vite possible, alors qu'on voit Annemiek van Vleuten, 39 ans, en train de se battre avec sa machine, aller dans les pourcentages les plus durs. C'est 20% actuellement, encouragé par une foule qui a répondu présent, qui est très très nombreuse ici derrière les barrières. Mais on sent que c'est très très dur pour Annemiek van Vleuten, qui roule d'ailleurs là sur une route où il y a encore les inscriptions pour Thibaut Pinot, puisqu'on rappelle qu'ici c'est un petit peu chez Thibaut Pinot, mais il y a aussi des inscriptions pour les coureuses. On a vu notamment le prénom d'Evita Music qui était sur la route, parce qu'Evita Music et tout simplement d'ici quasiment. En tout cas, elle est née à Lons-le-Saunier. Elle connaît très très bien cette rampe. Elle a été décrochée d'ailleurs, elle qui était 8e ce matin au classement général. Mais ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est qu'Annemiek van Vleuten va bientôt passer ici. Elle est en train d'avancer. Le public, vous l'entendez sûrement autour de moi, est en train de l'acclamer. Elle vient de passer sous nos yeux, le visage tiré. Annemiek van Vleuten, 42 secondes d'avance maintenant sur Demi Vollering. Elle va probablement remporter cette étape. Elle va, c'est sûr, remporter le premier Tour de France féminin. Elle était attendue, triple vainqueur du Giro. Elle a écrasé l'étape hier, elle écrase celle-ci. Elle passe à l'instant sous la flamme rouge.
RMC, la flamme rouge.
Annemiek van Vleuten, donc, qui emmène pour l'instant le braquet qu'elle peut, j'ai envie de vous dire. Elle va arriver dans les 800 derniers mètres. Et là, c'est une partie non asphaltée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de goudron. C'est une espèce de petit gravel avec des murs là à 24%. Probablement la partie la plus dure, mais aussi la plus belle pour elle, puisque c'est la fin de ce Tour de France qui va la consacrer. Demi Vollering vient de passer à l'instant également devant nous avec une quarantaine de secondes de retard, alors qu'on est toujours en train de se bagarrer derrière. On va scruter évidemment ce que va faire la tricolore Juliette Labousse, qui, si elle reprend 50 secondes à Nieva Doma, pourrait monter sur le podium. Pour l'instant, c'est difficile, mais Nieva Doma peut faire, pourquoi pas, 50 secondes en 1 km, tellement la difficulté est énorme. On les voit là, les deux coureuses qui occupent la 3e et la 4e place du classement général dans des pentes à plus de 20% et qui vont également passer devant nous dans quelques instants après près de 3h35 de course, alors qu'Annemiek van Vleuten est toujours en train de monter ce passage non goudronné. On avait vu, pour ceux qui avaient évidemment suivi le Tour de France, des garçons, Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard livraient une magnifique bagarre, et c'est Pogacar qui avait réussi à battre Vingegaard avec un dernier coup de pédale, alors que Nieva Doma la 3e et Juliette Labousse la 4e générale se sont isolées. Elles ne sont plus que deux maintenant derrière Demi Vollering en poursuite, mais c'est Annemiek van Vleuten pour l'instant qui est seule en tête, dossard numéro 11 dans la poussière de la moto. Devant, il y a encore du monde pour la soutenir, évidemment. Très très belle ambiance. Elle est à 500 mètres hein. Rappelez-vous, quand est-ce qu'on a annoncé la flamme rouge? Preuve que c'est très difficile, ouais. Des pentes à 22%, alors que là les coureurs sont en train d'arriver petit à petit, François, mais c'est très très dur. Il y a une très très belle ambiance ici, alors que Juliette Labousse, la Française, passe à l'instant également sous la
flamme. Mais ça, c'est super, Juliette Labousse qui peut être sur le podium ce soir. Alors ça va être difficile quand même de faire son retard. Rappelle-nous, elle a 49 oui. secondes de retard hein, sur la 3e. Pour l'instant, elle est 4e au général hein.
Elle est 4e au général, elle a fini 4e hier. La 3e, c'est la Polonaise Katarzyna Nieva Doma, mais qui pour l'instant garde bien la route. Juliette Labousse, Juliette, il faudrait peut-être qu'elle attaque maintenant à 800 mètres de l'arrivée, parce que dans des pentes à 24%, on ne sait pas hein. Peut-être que la Polonaise peut avoir une énorme défaillance, mais je pense qu'au niveau des jambes, on imagine le lactique là dans les jambes. On voit les images terribles d'Annemiek van Vleuten, une des meilleures grimpeuses au monde, qui se bat avec son vélo, qui se bat sur sa machine. Elle pédale avec les oreilles, comme on dit, elle pédale avec les épaules, elle pédale avec tout. Les jambes tournent tout doucement, et pourtant elle est sur le plus petit maintenant plateau. Annemiek van Vleuten qui est debout sur son vélo, encouragée par la foule, alors que les coureuses, notamment Evita Music, la coureuse d'ici, la coureuse du coin, va également arriver sous la flamme rouge. Annemiek van Vleuten dans les tout derniers hectomètres. Pour l'instant, Juliette Labousse n'a pas réussi malheureusement à décrocher Nieva Doma. Elle est également sur la partie faite de gravel. On n'a pas d'écart avec la tête de course, on n'a pas d'écart avec Vollering, alors qu'Annemiek van Vleuten revient sur le replat, parce que c'est terminé pour elle dans quelques instants. La consécration pour la plus grande coureuse du monde, triple lauréate du Giro, double vainqueur des Strade des Bianche, double vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, double vainqueur du Tour des Flandres, championne olympique du contre-la-montre. Il lui manquait le plus grand tour au monde. Annemiek van Vleuten est en train de le gagner. Image terrible, elle est assise sur la selle, elle pousse. C'est absolument incroyable l'effort que doit fournir cette championne. Et dites-vous que c'est la plus grande de ce peloton. Annemiek van Vleuten en énorme souffrance, mais Annemiek van Vleuten devant tout le monde, logique respectée. C'est monstrueux ce qu'a réussi à faire van Vleuten. On rappelle qu'elle a été malade sur les trois premiers jours, elle avait même hésité à abandonner la course, elle avait perdu du temps. Hier, elle a tout rattrapé, et ce soir elle va s'imposer à la super planche des belles filles. Interminable hein, Françoise, dernier kilomètre interminable,
le sourire.
Bravo Annemiek van Vleuten, qui lève le bras droit. Elle ne peut pas lever le bras gauche, sinon elle perd l'équilibre. Annemiek van Vleuten remporte cette dernière étape, remporte cette première édition du Tour de France femme, qui ne pouvait pas rêver de plus belle ambassadrice, la meilleure coureuse du monde consacrée ici, alors que Demi Vollering va faire deuxième. Elle a 25 ans, néerlandaise, c'est le futur du cyclisme féminin mondial. Encore une néerlandaise sur presque, j'allais dire, le toit du monde, en tout cas sur la deuxième marche du podium. Maillot blanc à pois rouge, Elle est en train de parler dans sa radio. Elle est très contente également. Et elle lève les bras presque. En tout cas, elle lâche le guidon. Demi Follering, deuxième de cette étape, qui va finir deuxième du classement général. Alors que Juliette Labousse, me semble-t-il, est toujours dans la roue de Katharina Nievadoma. Elle n'arrive pas à l'attaquer. Est-ce que c'est bien Katharina Nievadoma qui est avec elle? Oui, je vois son dossard jaune. Donc Juliette Labousse, qui au moment où l'on se parle, se contente, entre guillemets, même si c'est très bien, François, d'une quatrième place au classement général. Retenez bien son nom, hein, la coureuse de 23 ans du team DSM, Juliette Labousse. Sûrement la meilleure ambassadrice de notre cyclisme féminin français, qui est un petit peu en difficulté dans ses toutes dernières pentes. Il va lui rester quelques dizaines de mètres. Elle devrait terminer cinquième de cette étape. Quatrième hier, cinquième aujourd'hui pour Juliette Labousse. Ce serait vraiment magnifique que ça se termine comme ça pour elle. Voilà qui est fait. Mais François, vous le voyez, vous, à la télé, vous l'entendez quand je vous l'écris, les pentes sont terribles pour ces filles. Juliette Labousse va finir cinquième, Nievadoma quatrième.
Quelle victoire, effectivement, pour Annemiek van Vleuten, la Hollandaise, qui a tout écrasé sur ce Tour de France Femmes, premier du nom. Tour de France Femmes qui, on l'a vu sur les routes du Tour, et bien ça a plu à beaucoup, beaucoup de monde. On revient dans un instant avec toi, Valentin, justement pour faire un bilan de ce Tour de France Femmes, pour faire un point sur le classement final et définitif de ce premier Tour de France pour les femmes. On revient avec toi dans un peu plus d'une minute. Restez bien avec nous. On parlera également des femmes pour le football avec Angleterre-Allemagne. 18h, coup d'envoi de la finale de l'Euro. A tout de suite. Restez avec nous.
RMC Intégral Sport.
François Pinet.
17h50, vous êtes sur RMC dans l'Intégral Sport et il se passe énormément de choses en ce dimanche, puisqu'on vient de vivre ensemble l'arrivée du Tour de France Femmes. On va débriefer avec Valentin Jamin qui est sur place ce Tour de France Femmes. Je vous dis juste également qu'à 18h, on suivra Angleterre-Allemagne, finale de l'Euro féminin à partir de 18h. Donc toutes les infos dans un instant, ça se passe à Wembley, dans un Wembley qui a fait le plein. Et puis on reviendra aussi sur le Grand Prix de Formule 1. Jean-Luc Roy sera avec nous pour revenir sur le Grand Prix de Hongrie et la victoire de Max Verstappen et les malheurs de Ferrari. Vous entendrez d'ailleurs Charles Leclerc qui s'est exprimé après une nouvelle déception. Et puis on aura Caroline Garcia qui a remporté aujourd'hui un titre à Varsovie, qui sera avec nous en direct dans l'Intégral Sport sur RMC. Mais d'abord, retour donc sur ce Tour de France Femmes avec, retenez bien son nom, Van Vleuten. Là donc, la première cycliste qui a remporté ce Tour de France Femmes, Valentin Jamin. Et quelle victoire, on a envie de dire que c'est écrasant, mais il a fallu qu'elle aille quand même chercher cette victoire au bout de ses forces, Valentin.
À la hauteur de son talent, Annemiek van Vleuten. Et quand vous voyez une coureuse souffrir comme ça, dites-vous que c'est la toute meilleure du monde. Donc imaginez aussi pour les autres femmes. Mais Annemiek van Vleuten, effectivement, y est allée au talent, mais également au panache, hein. On le disait tout à l'heure, elle a été malade sur les trois premières étapes. Elle avait la gastro, elle a failli abandonner. Finalement, elle s'est remise hier. Elle a fait un numéro majestueux dans l'étape, la première étape de montagne. Elle a récupéré le maillot jaune, elle a gagné l'étape. Et puis aujourd'hui, elle a eu des galères. Elle a eu un problème mécanique. Elle est arrivée en queue de peloton après avoir changé de vélo. On ne l'a pas attendue, on l'a même un petit peu attaquée. Elle s'est retrouvée dans un groupe derrière. Elle est revenue à la force de ses jambes toute seule. Elle a dû rechanger de vélo deux fois. Et finalement, rien n'y a fait. Annemiek van Vleuten, attaquée aussi, hein, dans le ballon d'Alsace à 50 km de l'arrivée, eh bien, a finalement répondu à tout cela et répondu de la plus belle des manières à toutes celles qui voulaient la faire tomber, puisque c'est elle qui a mis tout le monde d'accord et qui arrive au sommet de la super planche des belles filles, au sommet de ce Tour de France Femmes, avec le maillot jaune. Elle montra tout à l'heure sur la plus haute marche du podium. C'était peut-être pas le rêve de sa vie, hein. On lui a pas demandé si c'était vraiment le rêve de sa vie, mais c'était l'ambition de son année et probablement une des plus belles victoires de sa carrière. Quand on voit son sourire, quand on voit sa joie, gagner les deux dernières étapes, gagner le classement général à 39 ans, la néerlandaise. Incroyable.
Qui a remporté le Giro aussi cette année.
Elle a fait bravo aussi à Demi Follering.
Elle a un palmarès incroyable.
Elle a remporté le Giro,
championne olympique aussi. Ouais, effectivement, c'est Annemiek van Vleuten, tu l'as dit, une des meilleures du monde, qui s'impose logiquement dans ce Tour de France femme, cette première édition où les Hollandaises sont quand même au sommet du vélo féminin. Hein.
Oui, bah on a vu Marianne Vos qui avait porté le maillot jaune pendant la majorité de ce Tour de France femmes. marqué de Panemic Van Vleuten qui gagne deux étapes également et qui a porté le maillot jaune sur ses deux dernières étapes. Donc oui, le cyclisme féminin néerlandais est sur le toit du monde et ça n'est pas du tout une surprise, hein. On savait, elles sont, c'est beaucoup plus développé en fait. Les filles, on les met sur un vélo dès toutes petites, c'est bien plus structuré qu'en France. Lorena Vibes aussi qui a gagné deux étapes au sprint, qui avait le maillot vert, est néerlandaise. Donc c'est aussi la preuve de la domination et la preuve qu'il va falloir travailler en France pour faire mieux. Même si on a une belle ambassadrice avec Juliette Labousse qui va faire quatrième du classement général, qui a fait cinquième de cette étape et qui a été magnifique sur ce Tour de France femme.
Superbe quatrième place effectivement pour Juliette Labousse, alors qu'on n'attendait pas forcément cette cycliste à ce niveau-là. Mais un mot plus global aussi sur cette première édition du Tour de France femme, même s'il y en a eu un il y a très très longtemps. C'est vraiment la première édition de ce Tour de France en 8 étapes. Donc ça a l'air d'être une réussite populaire. Toi qui as suivi ça de très près pour RMC Valentin, on a vu sur le bord des routes là les gens qui encourageaient ces femmes, c'était assez formidable comme ambiance.
Il suffit que je me retourne hein, pour vous dire un grand oui. Les gens sont là, sont derrière les barrières, ils encouragent chaque coureuse qui passe. Il y a les casquettes du maillot à pois, il y a les t-shirts maillot à pois. Les gens étaient là très très tôt. Moi je suis arrivé à 12h30 ici à la planche des belles filles. Il y avait déjà beaucoup de monde, des cyclotouristes et derrière là les acclamations que vous entendez peut-être pour Marie Lenette. On ne sait pas trop si la cycliste est en train de rire ou de pleurer, peut-être de pleurer de joie parce qu'elles vivent toutes un moment exceptionnel. Et oui, il y a eu du monde. Pas dans les mêmes proportions que pour le Tour de France masculin, mais il y a eu énormément de monde sur le bord des routes. Et on n'est pas en train de dire ça parce que c'est le premier Tour de France fan. C'est vraiment une réussite populaire. Et les cyclistes et les directeurs sportifs, par exemple, eux-mêmes en étaient surpris. Et l'image, là, c'est cette super planche des belles filles où il y a beaucoup, beaucoup de soutien pour ces coureuses.
Merci beaucoup, Valentin, en tout cas, de nous avoir fait vivre ce Tour de France femme pendant toute la semaine sur RMC.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup et à très bientôt. On a donc vécu en direct la victoire d'Annemiek Van Vleuten et on en reparlera, bien évidemment, sur RMC de ce Tour de France femme première édition. Dans un instant, on va parler de l'Euro féminin avec Angleterre-Allemagne. C'est la finale à suivre à partir de 18h. On vous présente cette rencontre et puis on revient sur le Grand Prix de Hongrie avec la victoire de Max Verstappen. Vous entendrez également Charles Leclerc, très déçu, le monégasque, après cette course. Enfin, on entendra également Caroline Garcia qui a remporté le tournoi de Varsovie en tennis. Restez bien avec nous, l'Intégral Sport continue sur RMC.